On va prendre un passage dans Galates ce matin. Si vous voulez prendre Galates chapitre 6 et on va lire les versets 7 à 9. Galates 6. Galates 6, versets 7 à 9. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. On va encore s'incliner dans la prière. Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu es notre Dieu Seigneur et nous sommes heureux de te connaître, heureux d'être venus à toi, de ce que tu nous as pris dans tes bras, tu nous as sauvés Seigneur et de cette relation maintenant que nous avons avec toi. Merci Seigneur de ta parole, merci Seigneur parce que tu veux continuer dans ta fidélité à nous parler, à nous stimuler, à nous encourager, à nous pousser de l'avant. Seigneur, et nous prions que ta parole nous y aide ce matin, que ton esprit la fasse vivre dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans notre réflexion, et que tu nous parles, tu nous touches, tu nous fasses du bien. Seigneur, merci, parce que tout vient de toi, et sans toi, nous ne pouvons rien. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, l'idée qu'exprime ce passage des Écritures, on peut dire qu'elle est connue de beaucoup d'hommes, sans pour autant qu'ils soient chrétiens, en fait. Hein. Dans le monde, il y a déjà cette pensée. C'est un principe dont beaucoup sont persuadés. Ce que l'on sème, on le moissonne. Et Jésus a pris une image simple de la vie de l'époque, de l'agriculture. Et c'est une réalité, c'est la loi de la moisson. Et c'est Dieu lui-même qui a instauré cette loi. C'est lui qui l'a établie. Et c'est lui qui se charge de la mettre en œuvre. Et on peut se dire que d'une certaine manière, l'homme applique aussi cette loi. Par exemple, si quelqu'un vole, il y a des chances qu'il se retrouve devant un tribunal. Récemment, il y a quelqu'un, j'ai lu, qui a volé une pièce de 20 centimes. Et puis, il s'est pris de la prison ferme. Mais ce n'est pas parce qu'il avait volé 20 centimes qu'il a pris de la prison ferme. C'est parce qu'il a semé du vol une dizaine de reprises et qu'il était récidiviste. Alors quand il a pris une pièce de 20 centimes dans une voiture qui était ouverte, bam, c'est tombé. Voilà, on récolte ce que l'on sème. Maintenant les hommes, eux, ils appliquent cela d'une certaine manière, mais eux ne voient pas tout. Eux, ils ne voient que... voilà, il y a plein de voleurs, ils ne sont pas en prison. Hein. C'est une réalité. Mais Dieu, lui, il voit tout. Et rien ne lui échappe. Et il est le seul qui puisse vraiment rendre à chacun ce qu'il sème. C'est pour ça qu'il nous est dit, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, eh bien, il le moissonnera aussi. On ne peut pas le tromper, c'est impossible. Mais ce qui est vrai pour le mal, quand on sème du mal, eh bien, c'est vrai aussi pour le bien, quand on sème du bien. Et ça, c'est aussi une bonne chose. Une fois, j'étais dans un supermarché, j'arrivais à la caisse, il y avait une personne devant moi avec 2-3 articles, moi aussi j'avais 2-3 articles, et puis devant, il y avait une femme avec un caddie qui était plein, voilà. Alors la dame, qui avait le caddie, elle dit à la personne devant moi, ben, allez-y, passez. Et puis après, elle me voit avec mes 2-3 choses, elle me dit, allez-y, passez. Et je dis, non, c'est bon, vous n'avez pas laissé passer tout le magasin. Elle dit, oh, mon grand cœur me perdra. Et je lui ai dit, mais on n'a jamais tort de faire du bien. Jamais tort. C'est toujours bien de faire du bien. Ça, c'est une réalité parce que Dieu voit tout et Dieu rémunère tout. Le bien comme le mal. Et c'est quelque chose d'automatique. C'est comme une loi qui s'applique tout le temps. Vous savez, une loi de physique, c'est quelque chose d'immuable. On fait une expérience et puis on la refait, on la fait 1000 fois, elle se répète. Ça y est, c'est une loi. On déclare, c'est une loi. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est quelque chose de fixe. Dieu est parfaitement juste, alors ce qu'un homme sème, il le moissonnera aussi. Et ce n'est pas forcément que Dieu... va agir pour nous rendre ce que nous semons. Parfois, c'est nous qui récoltons le fruit de nos propres œuvres, en fait. Hein. Dieu ne fait rien, mais c'est cette loi qui s'applique irrémédiablement. Comme celui, par exemple, qui va faire des excès, et puis ben, il récolte des problèmes de santé. Comme quelqu'un qui va vivre dans la débauche, et puis il va récolter une maladie. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive aussi. Et il faut réfléchir aujourd'hui et se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de semer aujourd'hui? Qu'est-ce que nous semons? Est-ce qu'on sème la paix, on sème l'amour, on sème la bonté, le pardon, ou on sème l'égoïsme, on sème la haine, on sème l'amertume? Parce que, eh bien, on finit par récolter en fonction de ce que nous avons semé. C'est une réalité. Et quand on jette des poignées d'égoïsme au milieu de tout ce qu'on sème, eh bien, on ne peut pas récolter à la fin du bon fruit. C'est pas possible. Si on jette quelques grains de blé et puis après une poignée d'ivraie, quelques grains de blé, une poignée d'ivraie, à la fin, vous n'avez pas un beau champ de blé. Hein. C'est pas possible. Il faut semer du blé, et s'il y a quelques brins d'ivraie au milieu de tout ça, c'est pas grave. Mais il faut semer et semer, semer de bonnes choses. Pour bien récolter, il faut semer ce qui est bon et il faut semer d'une manière constante, constante, persévérer, encore, encore. S'efforcer de semer que du bon grain chaque jour avec persévérance. En plus, ce qui se passe avec la semence, c'est qu'elle produit une moisson au centuple, que ce soit en bien et en mal, ça a tendance à se multiplier. Parfois, on est surpris. Tout se multiplie. Et on peut dire que c'est là la récompense ou le châtiment du semeur. Celui qui sème, ben finalement, il en est vraiment récompensé ou eh bien, il en est vraiment châtié. Il y a un exemple dans les Écritures que j'aimerais qu'on regarde. C'est dans Juges chapitre 1 et versets 1 à 7. Juges 1 et versets 1 à 7. Il est dit ici, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» L'Éternel répondit, « Juda montera, voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Et Juda dit à Siméon son frère, « Monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort, et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est échu en partage. » Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phéréziens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Ils trouvèrent Adoni-Bézek à Bézek. Ils l'attaquèrent, et ils bâtirent les Cananéens et les Phéréziens. Adoni-Bézek prit la fuite, mais ils le poursuivirent et le saisirent, et ils lui coupèrent les pouces des mains et des pieds. Adoni-Bézek dit, « 70 rois ayant les pouces des mains et des pieds coupés, ramassaient les miettes sous ma table. Dieu me rend ce que j'ai fait. » On l'emmena à Jérusalem et il y mourut. « Dieu me rend ce que j'ai fait. » C'est une histoire crue, hein, c'est difficile, hein. Voilà, la Bible, elle montre des histoires qui sont dures aussi du passé, parce que le passé était aussi très dur. Hein. Parfois, le présent l'est aussi. Hein. Adoni-Bézek, il a voulu dominer, il a voulu montrer sa suprématie, il a humilié 70 rois. C'est terrible quand on y pense. Hein. 70 rois qui sont humiliés de cette manière. Mais ben, il a fini par récolter ce qu'il a semé. Et puis, ça lui est revenu. Et il est mort quelque temps après. Et c'est aussi valable pour le bien. Et merci Seigneur, c'est valable pour le bien. Un jour, il y a un jeune avocat qui s'appelait Daniel Webster. Il avait un petit dossier à régler. Une histoire d'assurance. Hein. Une personne qui avait des problèmes avec un assureur qui faisait appel à lui. Alors, ses honoraires en tant qu'avocat, c'était pas grand-chose. Et particulièrement pour ce genre de dossier. Mais il savait que s'il allait dans une bibliothèque judiciaire à Boston... Si je vais me renseigner là-bas, c'est sûr, je vais avoir le dossier en main. Mais il allait le payer de sa poche. Il fait le choix quand même de le faire. Il paye de sa poche, il va s'enseigner. Évidemment, il gagne son petit procès. Et puis, quelques années plus tard, il se retrouve à New York, hein, Et cette fois, c'était un gros dossier, une chose importante, de nouveau un problème d'assurance. L'avocat qui était en charge, il tombe malade. Et là, ils font appel à lui. Ils le supplient de prendre le dossier en main, puisque l'argent, là, c'était plus du tout un problème. Et alors, je vous lis. « Je leur fis savoir qu'il était aberrant de me demander de préparer une telle défense en quelques heures. Ils insistèrent cependant à ce que je regarde le dossier, ce à quoi je finis par consentir. Et c'était exactement le même cas qu'à mes débuts, lorsqu'il était parti. Et comme il retenait tout, il avait tout le dossier au bout des doigts. Il savait exactement comment faire la défense. La cour savait que je n'avais pas eu le temps de me préparer et fut étonnée de ma défense. J'ai été ainsi largement récompensé, tant sur le plan financier que de la réputation, pour ce fameux voyage à Boston. La morale de l'histoire, c'est que le bon travail finit toujours par être récompensé. » Voilà. On s'aime avec bienveillance, avec bonté, et hop, ça nous revient. On récolte toujours. Celui qui est généreux, qui est bon, qui est désintéressé, eh ben, il reçoit un jour le fruit de sa bonne attitude. Celui qui est égoïste, celui qui pense qu'à soi, à son bénéfice, à son plaisir, à ses intérêts, eh ben, un jour, eh ben, il le regrette. Nos actions, nos paroles, nos pensées sont comme un boomerang que nous lançons. Hop, et puis il finit par revenir. Ça nous revient en bien ou en mal. Et c'est vrai pour quelque chose qui est extérieur. Ici, lui, ben voilà, il a gagné son procès, il était content, une bonne réputation, une popularité. Maintenant, c'est aussi valable pour ce que l'on est intérieurement, ce que l'on sème intérieurement. Regardez verset 8, Galates 6 et verset 8. Il est dit, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. » Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors peut-être avant, c'est bien d'expliquer qu'est-ce que c'est la chair, ici dans notre texte. Celui qui sème pour la chair, qu'est-ce que la chair? C'est pas le corps, c'est pas juste notre enveloppe, hein, mais c'est plutôt notre nature humaine. C'est assez intérieur en fait, c'est notre nature humaine que nous avons héritée d'Adam et Ève, de nos premiers parents. Ils ont désobéi, ils ont péché, et voilà, leur nature a été prisonnière du péché et souillée par le péché. Ils avaient ensuite une nature pécheresse, hein, et ils l'ont communiqué à leurs enfants, et puis nos parents ne l'ont communiqué. Et on a cette nature, la chair, cette mauvaise nature pécheresse. Hein. Après, Paul parle de l'esprit. Il dit « celui qui sème pour l'esprit ». L'esprit ici, c'est l'esprit de Dieu. Mais pourquoi il parle de l'esprit de Dieu? Parce qu'il est en train de s'adresser à des chrétiens qui ont fait une démarche vers Jésus-Christ et qui ont reçu l'esprit de Dieu. Ils avaient cette vieille nature, leur nature charnelle, qu'ils avaient héritée d'Adam. On l'a tous. On est tous comme ça. Mais eux, ils avaient quelque chose en plus, c'est qu'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu le jour où ils avaient cru en Jésus-Christ. Et cet Esprit Saint, eh bien, avait régénéré en eux l'Esprit qui était coupé de Dieu. Et donc, ils avaient ces deux natures, la nature pécheresse, normale et naturelle, et puis la nature régénérée par l'Esprit de Dieu. Alors, Paul dit, verset 8, hein, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Qu'est-ce qu'on favorise dans notre vie quotidienne? Est-ce que c'est la chair ou bien est-ce que c'est l'esprit? Nous avons que deux moissons possibles. La Bible dit c'est soit la corruption, soit la vie éternelle. Il n'y a que ces deux moissons. Et c'est ce que nous semons maintenant, jour après jour, heure après heure. Eh bien, c'est ça qui va faire que nous allons moissonner, finalement. Certains, au bout de quelques années, ont des vies qui sont abîmées, en lambeaux, hein, pitoyables. Et ils se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Pourquoi c'est comme cela? Pourquoi ma vie, elle est comme cela? Mais c'est à cause des choix. On a fait des choix et on a semé, mais on n'a pas bien semé. Et puis on finit par récolter à la fin une vie eh bien, qui est triste. Maintenant, c'est intéressant de voir que Dieu nous dit ici que celui qui sème pour sa chair moissonne de la chair la corruption. En fait, c'est la chair elle-même qui lui rend ce pourquoi il a vécu. C'est pas Dieu qui lui donne la corruption, c'est son propre péché qui le corrompt. Quand on fait le choix de vivre pour la chair, eh bien notre vie elle s'enracine finalement dans le péché, toutes nos actions, toutes nos pensées, ce que nous sommes, est semé pour la chair. Vous savez, c'est pas forcément tomber dans la débauche ou dans des vices ou c'est quoi semer pour la chair. En fait, c'est vivre indépendamment de Dieu. C'est ne pas se soucier de Dieu, ne pas vivre pour lui, être coupé de lui. Eh bien, à ce moment-là, on vit par la chair. On vit selon la chair. Paul n'a pas dit, vous allez vous souvenir de ce passage, il n'a pas dit « Je suis vivant et tout ce que je vis, c'est la chair qui le vit en moi. C'est ma volonté propre qui prend toutes les décisions parce que je ne fais pas confiance au Fils de Dieu. » Finalement, quand vous prenez ce passage lu comme ça, mais c'est ce qui se passe dans la vie de plein de gens. Hein. C'est moi qui vis. C'est moi. C'est ma chair. Et je ne fais pas confiance au Fils de Dieu. Et c'est moi qui prends mes propres décisions. Et qui, voilà, je choisis ma vie. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Il n'a pas dit ça, Paul. Et vivre pour la chair, eh bien, c'est garder sa vie pour soi. C'est faire ce que nous, on a envie, jour après jour, sans se soucier de ce que Dieu a à nous dire. En Romains, il est écrit, « Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit qu'ils ont reçu, l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Et on peut se poser la question, mais est-ce que je laisse l'Esprit de Dieu me conduire dans ma vie? Est-ce que c'est lui qui a le contrôle vraiment de ma vie? Ou bien c'est le moi qui a le contrôle, la nature humaine, hein, charnelle, qui a le contrôle de ma vie. Et pour vivre ce verset, être conduit par l'Esprit, eh ben ça sous-entend d'avoir une relation qui est intime, journalière, personnelle avec son Dieu. On entretient cette relation avec lui. Si on vit la vie chrétienne à grands traits, c'est-à-dire, ben, allez, un petit peu d'église, un petit peu de Bible, un petit peu de prière, surtout quand ça ne va pas bien du tout, un petit peu de communion, à grands traits, ben, on n'est pas en train de favoriser une vie par l'Esprit. C'est normal, c'est normal. On ne peut pas s'entendre être conduit par l'Esprit si on ne favorise pas ce que l'Esprit attend de nous. Dieu est une personne et il veut avoir une communion avec nous par l'Esprit. Alors, eh bien, il faut être sensible à son esprit et qu'on puisse vraiment vivre pour lui dans tout ce que nous faisons, dans notre travail, dans nos loisirs, dans notre famille, dans l'église. Regardez Deutéronome 18 et verset 13. C'est un beau verset. Deutéronome 18, verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Ça, c'est ce que Dieu attend de ses enfants. Il veut qu'on lui soit entièrement consacré pour lui. Entier dès le matin au réveil. Entier dans notre culte personnel. Entier dans notre travail. Entier dans nos pauses. Entier dans nos repas, entier en faisant nos courses, entier dans notre repos, entier à notre coucher. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Et tant qu'on n'est pas entier, eh ben on n'arrive pas à vivre, on ne peut pas vivre Galates 2:20. Donc maintenant, je vous donne la bonne version. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, c'est vrai, dans cette nature, cette vieille nature, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et on voit dans ce verset que Dieu veut la mise à mort de notre chair. La mise à mort. Et il n'y a que la mise à mort qui peut nous affranchir de cette vieille nature que nous avons héritée d'Adam et Ève. Il n'y a que la mise à mort. Parce que la vieille nature, elle ne peut pas changer. C'est impossible. Elle ne peut pas changer. Elle ne peut pas se réformer. Vous savez, on fait des réformes, on veut réformer sa vie, surtout le 1er janvier. Mais elle ne peut pas se réformer. Alors bien sûr, quand on a une motivation plus forte, on arrive à changer certaines choses dans sa vie, heureusement. Il y en a qui arrêtent de fumer sans croire à Dieu, par exemple, hein, sans croire en Dieu. Mais la vieille nature, elle ne peut pas se sanctifier. On ne peut pas la sanctifier. La chair est mauvaise par nature. Le seul moyen d'en être délivré, c'est qu'elle soit morte, crucifiée. Et puis, une fois qu'elle est morte, crucifiée, eh bien qu'une nouvelle nature prenne le relais. Et c'est ce que Dieu a fait, c'est ce que Dieu nous offre. Quand on vient à Jésus-Christ, qu'on croit en lui, en sa mort à la croix, il a payé pour nos péchés. Il est mort à notre place pour nous pardonner. Quand on place sa foi en lui, il nous donne son esprit et on a une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, eh bien, elle peut prendre le relais. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est cette nouvelle nature qui prend le relais et qui me permet de vivre libre, libéré. Paul le dit, il le vivait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, est-ce que sa vieille nature, elle avait disparu? Non, elle est toujours là, hein. Elle est coriace, hein. Et elle le sera jusqu'à ce qu'on soit libéré, qu'on ressuscite, où là, Dieu va nous libérer, vraiment. Mais en attendant, eh bien, elle était toujours là, cette vieille nature, et elle est toujours là pour chacun. Mais il l'a considérée comme morte crucifiée. Je ne lui porte pas d'intérêt, je ne m'en occupe pas, je ne la nourris pas. Si elle a envie de faire des choses, et je sais bien que Dieu ne veut pas, je ne la nourris pas. Donc je ne vais pas aller vers des choses qui ne plaisent pas à Dieu, parce que je vais nourrir cette vieille nature et lui donner des forces. Et elle va me dominer. Donc je ne la nourris pas. Je m'en détourne, elle est crucifiée, elle est morte, et je sème pour l'esprit. Je vais semer pour l'esprit. Ça veut dire qu'il cherchait à vivre, à aimer son Seigneur. Il cherchait, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux t'obéir, quelle est ta volonté? Je veux vraiment me nourrir de toi, de ton esprit, de ta parole. Alors, eh bien, il était libéré de la mauvaise nature. Paul dit, celui qui sème pour l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Si c'est ce que nous désirons, si c'est ce que nous recherchons, semer pour l'esprit, alors on moissonne de l'esprit la vie éternelle. Et la vie éternelle, on se dit parfois, la vie éternelle, ben, c'est quand je meurs. Voilà, je vais entrer dans la vie éternelle. Mais non, la vie éternelle, c'est maintenant. C'est celui qui accepte Jésus-Christ, qui est crucifié avec Christ et qui laisse Christ vivre en lui, ça y est, il entre dans la vie éternelle. C'est maintenant la vie éternelle. Elle commence dès aujourd'hui. On peut remarquer dans plein de promesses de Dieu. Si vous voulez prendre l'évangile de Jean, chapitre 3 et verset 36 pour commencer. Jean 3 et verset 36. Il dit, je vais lire simplement la première partie du verset, mais on peut tout lire. Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. Il ne dit pas, celui qui croit au Fils, il aura la vie éternelle, finalement, quand il va mourir. Il aurait pu dire ça, et ça nous paraîtrait presque logique. Je crois en lui et finalement je serai récompensé à la fin. Mais non, il dit celui qui croit maintenant, il a maintenant. Ça y est, ça commence. Tout de suite. Parce qu'il a cru, il entre dans la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Regardez Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à Dieu, Il a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, il est passé déjà maintenant de la mort à la vie. Et il a maintenant la vie éternelle. C'est fait. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. C'est un beau verset ici parce qu'il distingue ici entre le présent et le futur. La vie éternelle, c'est maintenant. Il a la vie éternelle. La résurrection, c'est futur. Un jour, il ressuscitera parce qu'il m'a reçu dans son cœur et dans sa vie. Je le ressusciterai au dernier jour. Et il dit, la vie éternelle, elle est pour aujourd'hui. Dès qu'on le mange et dès qu'on le boit, hein, c'est ce que dit le verset, celui qui mange ma chair et boit mon sang. Maintenant, ce n'est pas l'idée, parce que je vais manger le pain et le vin qui est présenté dans la scène, ça y est, j'aurai la vie éternelle. Si vous lisez tout le passage, c'est très clair. Mais en fait, c'est quoi manger le pain et boire le vin ? Ben, c'est se nourrir de la personne de Jésus-Christ. Si je me nourris de lui, de ce qu'il est, j'ai la vie éternelle. Maintenant, je l'ai. J'ai la vie. C'est quelque chose de spirituel. Et la résurrection, eh bien, ça viendra plus tard. Une fois que Jésus-Christ me prendra avec lui, puis une fois qu'il reviendra, il nous ressuscitera ensemble, il est dit. Jean 10, versets 27 et 28. Jean 10, versets 27 et 28. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne, présent, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Donc de nouveau, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ crucifié ont immédiatement la vie éternelle. C'est pour ça qu'ils ont une assurance. Je peux dire, je suis sauvé. Pourquoi ? Parce qu'il m'a donné la vie éternelle en 1994. J'ai cru en lui, j'ai reçu la vie. Il m'a sauvé. Est-ce que je suis meilleur qu'un autre ? Non. Mais il l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Et si vous le faites, vous le recevez et vous l'avez. Pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que simplement vous avez cru, vous êtes approché de lui, vous lui avez dit « Seigneur, sauve-moi ». Et il vous sauve. Il vous pardonne si vous lui demandez. Et il vous donne le Saint-Esprit. Vous avez la vie éternelle. Il dit, elles ne périront jamais. C'est définitif. Définitif. Dieu ne nous donne pas la vie pour dire, ah, finalement, je vais te la reprendre. Non, je te la donne. Un don, c'est quelque chose, un don. Est-ce qu'on peut imaginer Dieu qui donne et qui reprend ? Non, Dieu donne la vie éternelle et la personne ne périra jamais. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui l'a sauvé et c'est lui qui lui tient la main. Alors, eh bien, c'est sûr, c'est définitif, c'est concret. C'est un cadeau, dit la parole de Dieu, un cadeau gratuit. Mais durant notre temps sur terre, eh bien, c'est à nous de laisser croître cette vie en nous en semant, non pour la chair, mais pour l'esprit. Là, on laisse cette vie grandir, hein, parce que celui qui sème pour l'esprit, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est-à-dire, il va moissonner cette vie qui a déjà commencé parce qu'il a cru, une vie de victoire sur le péché, une vie de délivrance, une vie de communion permanente avec lui. Celui qui marche dans la lumière, il est en communion avec Dieu, de manière permanente, et une vie d'abondance dont Jésus nous a parlé. Il y a une image que beaucoup connaissent, mais qui est très belle, l'image de la chenille. Au départ, elle se traîne sur le sol, elle rampe, et puis finalement, elle se trouve une plante où elle s'accroche, elle va former une chrysalide, un cocon, et puis elle va se transformer jusqu'à devenir un papillon, et hop, et s'envoler vers le ciel. Et la vie chrétienne, elle est comme cela. Au départ, nous sommes des pécheurs, nous sommes attachés aux choses de la terre, collés aux choses de la terre, à moins qu'il y ait quelque chose voilà, des circonstances et Dieu permet, hop, il nous aide à lever les yeux un peu plus haut que ce que nous voyons à notre niveau. Au départ, nous sommes collés aux choses de la terre, mais quand on croit en Jésus-Christ par sa parole, Dieu nous fait naître de nouveau par l'Esprit qu'il nous donne. Voilà, on est transformé. Et à ce moment-là, on commence à être un papillon qui s'envole vers les choses célestes, les choses de Dieu. Malheureusement, on peut parfois être un papillon, mais qui marche encore comme une chenille. Il y a des papillons qui marchent comme une chenille. Ça, malheureusement, ça arrive. On a les ailes, on a tout ce qu'il faut pour s'envoler, pour être libre, mais on continue à se traîner sur le sol. Et la raison, c'est qu'au lieu de semer pour l'esprit, on sème pour la chair. Et on sème pour les choses de la terre. On ne peut pas voler, on n'arrive pas à voler. Et qu'est-ce qu'on moissonne ? On moissonne la corruption. Notre vie, elle est entachée par le péché, par les mauvaises habitudes, coriaces, et on est malheureux. Et on est malheureux, c'est normal. Parce qu'on n'est plus une chenille, on est un papillon. On a des ailes et on marche sur le sol. Le papillon, il est heureux que quand il virevolte, nous, c'est pareil. Il n'y a que quand on marche par l'esprit dans cette nouvelle nature, c'est là où on est heureux. C'est là où, c'est la joie, c'est le bonheur. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est à nous de décider, je veux m'efforcer de vivre pour le Seigneur, de chercher sa volonté, de semer pour les choses d'en haut, de rechercher les choses d'en haut. C'était le verset qui était affiché durant le culte. Attachez-vous aux choses d'en haut. Attachez-vous. Recherchez-les. On s'attache à la parole de Dieu. On s'attache aux prières. On s'attache aux cantiques. On s'attache aux frères et sœurs. On s'attache aux choses finalement que l'Esprit agrée. Il dit, c'est là le chemin. C'est là le bon chemin. C'est ce que Dieu attend de nous. Et ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. On peut en être certain. Parfois, on voit une personne qui est comme un papillon qui vole et on se dit, j'aimerais bien voler comme il vole. Mais c'est parce que c'est dur pour tout le monde. On doit tous semer et recommencer inlassablement. Mais on finit par récolter ce qu'on a semé. Et on finit par s'envoler. C'est certain. Galates 6, verset 9. Il dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Semer, sans se relâcher, sans se lasser. On fait le bien, on fait ce que Dieu nous demande. On vit, je veux te plaire, Seigneur, marcher avec toi. Et au temps convenable, au temps opportun, ça nous revient. Il y a Monsieur Edison, inventeur du phonographe. Il a prêché, sans le savoir à un journaliste, un puissant message de patience et de persévérance. Donc, il était en train de décrire ses efforts répétés pour faire reproduire un son dans son phonographe. Alors, il disait au journaliste, je vous cite, « J'ai travaillé 18 à 20 heures par jour pendant les 7 mois passés sur le simple mot « espèce ». Donc, tout ça, c'était en anglais. Je sais pas au niveau de la prononciation comment il faisait, mais « spécia ». Et donc, je traduis tout ça. Je disais dans le phonographe « espèce », mais l'instrument me répondait « épaisse ». « De quoi vous rendre fou ?» dit-il. « Mais j'ai tenu bon. » Et j'ai réussi. J'ai fini par réussir. Et il y a un temps où on moissonne ce que l'on a semé. Mais si on ne s'est pas relâché, si on a persévéré encore et encore, alors on est sûr, c'est sûr, on va moissonner. C'est sûr, il y aura du bon fruit. C'est quelque chose qui est irrémédiable, c'est une loi. C'est Dieu qui l'a établi. C'est une loi. Pierre dit, un très beau verset, Pierre dit, celui qui a souffert dans la chair, dans cette vie, celui qui a souffert dans la chair, en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu durant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. En fait, il dit celui qui a souffert dans la chair, c'est-à-dire celui qui a souffert à cause du péché. À cause de, c'est une lutte, vous savez, quand vous voyez des choses qui sont mauvaises en vous, vous voulez en être délivré, et puis ben ça revient et ça revient et ça revient. C'est une souffrance, hein. C'est difficile. Seigneur, je veux plus me mettre en colère. Seigneur, je veux aimer davantage. Seigneur, c'est une lutte, c'est dur. Mais il dit, celui qui a souffert dans la chair, arrive un moment, il en a fini avec le péché, afin de vivre, et il est toujours sur terre, parce qu'on se dit, ah ben c'est au ciel ça. Non, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, selon le péché, mais selon la volonté de Dieu, durant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Donc il arrive un moment où, parce qu'on a semé pour l'esprit, parce qu'on recommence, et on demande encore pardon, on finit par être libéré. Et après, on n'est plus chutant sans cesse, mais chutant de temps en temps. Il y aura toujours une brindille d'ivraie dans notre champ. Hein. On ne peut pas l'enlever complètement tant qu'on n'est pas avec le Seigneur. Mais c'est un champ de blé. Hein, c'est un beau champ de blé. C'est ça qui est important. Persévérer et on finit par moissonner. Dieu est fidèle. On moissonne une vie libre, une vie paisible, la vie éternelle. On va avoir un moment de prière. Si vous voulez rendre grâce, vous pouvez le faire.